15h, 16h,
au cœur de l'histoire, Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous, et comme chaque jour à 15h sur Europe 1, je vous propose un voyage au cœur de l'histoire. Et cet après-midi, comme toute cette semaine, semaine spéciale, on poursuit notre tournée des ducs. Pour ce deuxième épisode, je vous raconte le duc d'Orléans, premier prince du sang, qui est devenu Philippe Égalité, vu par beaucoup comme l'un des grands ordonnateurs de la Révolution, et surtout celui qui a tué, en quelque sorte, son cousin Louis XVI. Il a voté sa mort et l'a envoyé à l'échafaud. Pourquoi Philippe Égalité a-t-il voté la mort du roi? Voulait-il accéder au trône par tous les moyens? Comment le souvenir de cette figure fut-il instrumentalisé sous la Restauration et la Monarchie de Juillet? Avant d'en parler tout à l'heure avec mon invité, l'historien Raphaël Dargent, qui le raconte dans une nouvelle biographie, découvrons d'abord le destin du duc d'Orléans, ce prince révolutionnaire.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit.
Nous sommes le 16 janvier 1793 dans la salle des manèges du Palais des Tuileries, au cœur de la capitale, au cœur de l'hiver aussi, mais au plus chaud de la Révolution, tandis que se profile la terreur, tandis qu'on affûte la guillotine. Là où quelques mois plus tôt la République a été proclamée, la Convention nationale juge le roi Louis XVI, qui n'est désormais plus que le citoyen Louis Capet. On lui reproche beaucoup, il est accusé d'avoir tenté de dissoudre l'Assemblée nationale en juin 1789, d'avoir refusé de contresigner l'abolition des privilèges et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en août 1789, de s'être enfui à Varennes en 1791, d'avoir noué des alliances secrètes avec les puissances européennes ennemies de la Révolution, d'avoir fait couler le sang des Français, bref, n'en jetons plus. Ce ne sont là que les principaux chefs d'accusation. Ce jour-là, alors que les 787 députés ont déjà voté sa culpabilité à une large majorité, on se prononce sur la peine encourue par le roi. Mérite-t-il la mort? Le moment est crucial, historique même. Les députés votent un par un, publiquement, en montant à la tribune. Voici maintenant que s'approche l'un d'eux. Toute la convention retient son souffle. Sa décision est guettée comme aucune autre. C'est le député de la Seine, Philippe Égalité, un représentant des Montagnards qui siège aux côtés de Robespierre, de Danton et de Saint-Just. Devant la convention, il choisit d'expliquer son choix. Uniquement occupé de mon devoir, convaincu que ceux qui ont attenté ou attenteraient par la suite à la souveraineté du peuple méritent la mort, je vote la mort. Des murmures dans la salle accueillent le vote. Les ultras sont ravis. Robespierre pourtant admettra qu'il aurait compris que le député Égalité s'abstienne de voter la mort de son cousin. Eh oui, ce Philippe Égalité n'est pas n'importe qui. Un an plus tôt, il se faisait encore appeler par son titre duc d'Orléans, premier prince du sang, descendant direct des rois de France. Il est le chef de file de la branche cadette des Bourbons. Ce 16 janvier 1793, le duc d'Orléans, devenu Philippe Égalité, vient de voter la mort de son propre cousin, qui sera exécuté 5 jours plus tard, le 21 janvier 1793, sur la place de la Révolution, aujourd'hui place de la Concorde. Le duc d'Orléans entre ce jour-là dans l'histoire comme le régicide, le traître à son sang. Il a tué son cousin Louis XVI, qui lui ressemblait tant. L'historien Raphaël Dargent, notre invité cet après-midi, qui lui consacre une biographie qui nous a permis de nourrir mon récit, note qu'ils avaient tous deux la même petite bouche ourlée aux lèvres fines, la même boursouflure des joues, le même double menton, la même rougeur. Ils avaient surtout le même nez, un nez de type busqué, si caractéristique des Bourbons. 2 siècles après l'exécution de Louis XVI, on en débat encore. Mais pourquoi Philippe d'Orléans a-t-il voté la mort de son cousin? Voulait-il prendre sa place? Fut-il en réalité le grand ordonnateur secret de la Révolution? Mais remontons le temps, si vous le voulez bien. Nous sommes le 15 juillet 1784, soit presque 9 ans avant l'exécution de Louis XVI, et personne en France ne voit encore poindre la Révolution. Ce matin d'été, une foule immense s'est rassemblée dans le parc de Saint-Cloud et aux alentours. Certains sont carrément là depuis 2 jours et se sont installés avec boissons et victuailles. Le spectacle, il est vrai, promet d'être exceptionnel. Il s'agit d'un nouveau vol expérimental d'un ballon gonflé à l'hydrogène, une Caroline, comme on les nomme alors, et les progrès de cette science nouvelle passionnent à l'époque. Enfin, à 7h du matin, premier coup de canon retentit, le remplissage de la toile commence au moyen de tuyaux reliés à des tonneaux. Le cylindre, aux couleurs jaune et rouge, prend forme, long de 16 mètres pour 10 de diamètre. D'un côté de l'engin, deux rames doivent servir à le propulser, tandis qu'un grand gouvernail était fixé de l'autre côté. Quatre voyageurs ont pris place dans la nacelle, sous un pavillon bleu, surmonté d'un aigle d'or. À 8h, nouveau coup de canon. La Caroline décolle, puis s'élève à toute vitesse dans le ciel. Rapidement, le ballon devient un point au loin. Puis il échappe au regard. Il est déjà à plus de 4000 mètres d'altitude. Mais soudain, là-haut, le voici pris dans des vents violents. Le ballon est devenu incontrôlable. Les deux frères Robert, les inventeurs de la machine qui la pilote eux-mêmes ce jour-là, en sont réduits à déchirer la toile pour éviter le pire. S'ensuit alors une course folle. Le ballon redescend à vive allure. Il évite de justesse le plongeon dans un étang et finit par atterrir en catastrophe dans le parc de Meudon. Plus de peur que de mal. Le vol a duré 40 minutes. Il marque une nouvelle étape dans la conquête du ciel. Eh bien, ce ballon nouveau, cette Caroline, on l'a baptisé le duc de Chartres, du nom de son commanditaire. Celui qui l'a financé et qui a lui aussi pris place dans la nacelle ce jour-là, eh bien, c'est le duc de Chartres. C'est Philippe qui deviendra duc d'Orléans l'année suivante, quand son propre père disparaîtra. C'est Philippe, le futur chef de la famille d'Orléans et le futur régicide. Ce 15 juillet 1784, il a 37 ans. Et ce vol fabuleux en raconte beaucoup sur lui. C'est un homme de son temps, passionné par les avancées techniques et les idées nouvelles. Il est riche, il a payé de sa poche le ballon. Il est courageux, prenant place à bord. Et enfin, il est populaire, en mécène, pourvoyeur de spectacles. Philippe, le futur prince révolutionnaire, est né en 1747. Héritier des Orléans, branche cadette des Bourbons, il est alors quatrième dans l'ordre de succession au trône. Il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, oh non, loin s'en faut. La cuillère, à dire vrai, est plutôt en or massif. Lorsqu'il devient duc d'Orléans, en 1785, à la mort de son père, son apanage s'étend sur l'équivalent d'une vingtaine de départements. Essentiellement, le bassin parisien, la Normandie, soit un vingtième du territoire français. Ce sont aussi les terres les plus riches du pays. Ses seules forêts s'étendent sur 80 000 hectares. Il bénéficie d'un revenu net de 7 millions de livres par an. Une fortune, la deuxième de France, après celle du roi. Excusez du peu quand même. La famille d'Orléans possède bien sûr plusieurs châteaux. Philippe fréquentera celui de Saint-Cloud avant qu'il ne soit revendu à Marie-Antoinette. Mais son vrai quartier général se trouve au cœur de Paris. C'est le Palais Royal, qu'il fera remodeler pour en faire un lieu de promenade, de rencontres et de fêtes, et qu'il flanque de boutiques sous les arcades. Pour compléter le tableau, le palais abrite une immense collection d'œuvres d'art. 200 tableaux signés Raphaël, Le Titien, Véronèse, Tintoret, Rubens, Rembrandt, une collection de médailles, de pierres gravées, une autre de pierres précieuses, des dizaines de tapisseries. C'est simple, en cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, les Orléans sont les rois de Paris. Et c'est bien ainsi qu'on les surnomme. Philippe d'Orléans, à qui on a appris à se tenir droit, à marcher et à ne jamais courir, reçoit des leçons de maintien et de danse, bénéficie des services d'un maître d'armes, apprend à monter à cheval, admirablement, dit-on. Jeune homme de son temps, il est également très tôt initié au libertinage, conformément aux mœurs de l'époque, du moins chez les puissants et un peu chez les Orléans. À force de petits soupers et de parties fines qu'il partage à l'occasion avec un frère du roi, Charles, le comte d'Artois, Philippe se gagne une belle réputation dans ce domaine. Oui, mais voilà, moderne dans son style de vie et son intérêt pour la science, il est aussi dans les idées. C'est un progressiste, un admirateur des Lumières. Il reçoit Voltaire, que son cousin Louis XVI déteste. Pire, c'est un anglomane. Eh oui, depuis sa révolution de 1688, Londres vit sous une monarchie libérale qui a vu le renforcement du Parlement vis-à-vis de la couronne. Le duc d'Orléans, ça l'inspire. Membre de droit de la Cour des Pairs, qui est associé au Parlement de Paris, il va à plusieurs reprises prendre fait et cause pour les magistrats qui cherchent à limiter l'absolutisme royal, notamment dans la gestion des finances du pays. Prince fondeur, Philippe se fait le porte-voix du combat du Parlement. Et quel plus bel étendard qu'un prince du sang. Pensez, un Bourbon Orléans pour contrer un autre Bourbon. Mais à quel jeu joue donc le duc d'Orléans? Lui, l'ultra-privilégié. Jusqu'où est-il prêt à aller? Et nous allons vite avoir la réponse. Nous sommes maintenant en 1789, l'année fatidique. Après un hiver glacial, on craint la famine et la pression monte contre la monarchie. Face à la crise financière et à l'opposition persistante du Parlement, Louis XVI se résout à convoquer les États généraux qui vont réunir les députés des trois ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-État. Ce dernier, il faut s'en souvenir, représente 98% de la population française. Tandis que la France s'agite, le duc d'Orléans, le prince original, dont je ne vous ai pas encore dit qu'il avait un tatouage et des anneaux aux oreilles, est populaire comme jamais. Le palais royal devient un anti-Versailles, un point de ralliement d'une société parisienne en ébullition. Les clubs s'y multiplient, où l'on parle science et culture, mais aussi réformes politiques et idées nouvelles. Le duc d'Orléans attire à lui tous les progressistes, les partisans d'une monarchie constitutionnelle, mais aussi les plus radicaux. Brissot, futur chef de file des Girondins, se souviendra dans ses mémoires « Nous touchions à une grande crise, je le sentais, il me semblait qu'elle ne pouvait s'opérer qu'avec l'appui d'un prince riche, adoré du peuple, qui s'allierait avec les parlements, ses éternels ennemis du trône. » Le duc s'implique. Il fait rédiger par son fameux secrétaire, Chauderlot de Laclos, qu'on connaît surtout pour être l'auteur des Liaisons dangereuses, des instructions pour inciter les électeurs de ses domaines à bien voter. Parmi les propositions destinées au cahier des doléances, il est question de liberté fondamentale, de la responsabilité des ministres devant les États généraux, de la répartition égale de l'impôt et même de l'autorisation du divorce. La brochure est diffusée à 100 000 exemplaires. Sans surprise, le duc d'Orléans, élu député, rejoint les États généraux qui s'ouvrent le 4 mai 1789. Le 24 juin, coup de théâtre, il décide de rejoindre le tiers-État avec une partie de la noblesse. Seule une assemblée unique pourra, selon lui, donner une nouvelle constitution au pays. Le soir, des feux d'artifice sont tirés devant le palais royal. Le révolutionnaire Camille Desmoulins écrit alors à son père « Tout Paris est en combustion. On applaudit partout le duc d'Orléans avec transport. » Le 2 juillet, Philippe d'Orléans est élu président de l'Assemblée nationale par 553 voix sur 660 votants. Le lendemain, il monte à la tribune pour décliner cet honneur. Mais le voici au centre de tout, ainsi que le résume notre invité Raphaël D'Argent, son biographe. Il est devenu la figure de proue de la révolution naissante. Les événements se précipitent. Dans une France livrée aux rumeurs et aux pamphlets, on voit partout la main secrète du duc, de ses agents, de ses agitateurs. On parle de la faction d'Orléans. On ne prête qu'aux riches, hein, et de fait, les millions de Philippe sont soupçonnés de corrompre, acheter des complicités, susciter des troubles. On dit qu'il travaille pour les intérêts anglais. Et aussi, le mot est lâché, qui est à la tête d'un grand complot franc-maçon. Il est vrai que le duc a été intronisé grand maître de la Grande Loge de France en 1773. D'ailleurs, petite digression, on peut encore voir au cœur du Parc Monceau à Paris la pyramide qu'il avait fait édifier pour y abriter une loge. Oui, le duc était franc-maçon, mais rien ne viendra jamais accréditer cette théorie du complot. Fin avril 1789, Faubourg Saint-Antoine, des manifestants marchent contre la maison de l'entrepreneur Réveillon, accusé d'être un accapareur. L'émeute provoque plusieurs centaines de morts et une grande émotion prélude à la prise de la Bastille. Hasard ou non, ce jour-là, le duc d'Orléans traverse en carrosse le faubourg sans encombre et même au milieu des acclamations. « Vive notre père d'Orléans! Vive le seul et véritable ami du peuple !» La marquise de la Tour du Pin précisera dans ses mémoires qu'elle vit alors en personne des gens du duc d'Orléans exciter l'enthousiasme de la foule, lui distribuer de l'argent. Pour elle, pas de doute, cette émeute a été payée. Et la prise de la Bastille 14 juillet alors? Encore une manœuvre du prince, selon la rumeur. D'après le marquis de Ferrières, le duc devait profiter des troubles pour imposer au roi sa médiation et se faire nommer lieutenant général du royaume. Philippe, n'osant franchir le Rubicon, aurait renoncé au tout dernier moment. on soupçonne encore le duc d'Orléans d'avoir provoqué la grande peur, cette vague de violence qui se propage dans les campagnes entre le 21 juillet et le 6 août. Derrière la diffusion simultanée dans toutes les provinces de rumeurs sur un prétendu complot contre-révolutionnaire, on voit à nouveau la main invisible du duc. Au début de l'automne, la pression monte encore d'un cran. Le chaudron de la révolution est au bord de l'ébullition. Le 5 octobre 1789, une foule de femmes quitte Paris pour aller demander des comptes au roi qui jusqu'à présent conserve une marge de manœuvre bien à l'abri à Versailles dans son château. Pour le duc d'Orléans, c'est un tournant. Maintenant, il va devoir choisir son camp. Veut-il vraiment s'emparer du trône de son cousin Louis XVI ? C'est une rumeur, encore une, qui a mis le feu aux poudres. En septembre 1789, un régiment est arrivé à Versailles pour protéger le roi. Lors d'un banquet donné en l'honneur de la troupe, la cocarde tricolore aurait été foulée aux pieds. Colère et indignation, vous imaginez. Le journaliste révolutionnaire Marat lance aussitôt un appel pour marcher sur Versailles dans son journal L'Ami du Peuple. C'est pourquoi, je vous le disais, dans la nuit du 5 au 6 octobre 1789, plusieurs milliers de femmes en armes venues à pied de Paris envahissent le château. C'est la panique à la cour. Le roi et la reine sont contraints de paraître au balcon pour calmer la foule qui se tient dans la cour de Marbre. Après avoir songé à fuir, Louis XVI accepte de quitter Versailles pour Paris, escorté par les révolutionnaires. Le marquis de Lafayette, commandant de la garde nationale et partisan d'une révolution modérée, assure qu'il saura le protéger. Mais pour la monarchie, c'est en réalité le commencement de la fin. Sous la menace permanente du peuple parisien, le roi installé aux Tuileries sera peu à peu réduit à l'impuissance jusqu'à sa déchéance et son arrestation en 1792. Cette marche des femmes est-elle encore une machination de Philippe d'Orléans ? Celui-ci a assuré avoir passé la nuit fatidique au Palais Royal. La marquise Dupin, qui était à Versailles, raconte une autre version, s'appuyant sur le témoignage de sa femme de chambre. En descendant les marches du perron, elle avait découvert une troupe nombreuse de gens de la lie du peuple, dont un avec une longue barbe était occupé à couper la tête d'un garde du corps qu'on venait de massacrer. Qu'en passant devant la grille de la rue de l'Orangerie, elle avait vu arriver un monsieur en bottes très crottées et un fouet à la main, qui n'était d'autre que le duc d'Orléans, qu'elle connaissait parfaitement pour l'avoir vu bien souvent, que d'ailleurs les misérables qui l'entouraient témoignaient leur joie de le voir en criant « Vive notre roi d'Orléans !» tandis qu'il leur faisait signe avec la main de se taire. D'autres récits, tout aussi invérifiables, affirment que le prince indique lui-même aux forcenés la porte de la chambre de la reine. Ce qui est certain, c'est que le duc d'Orléans n'ose pas, encore une fois, en profiter pour prendre le pouvoir. Selon certaines sources, il va bien à Versailles, mais au dernier moment, il renonce à entrer dans le cabinet du roi, où, vu la terreur qui frappe Louis XVI et les ministres, il serait apparu en recours, peut-être pour prendre une régence. De l'avis de Lafayette, comme de notre invité Raphaël d'Argent, le duc, en reculant ce jour-là, a raté son moment. Alors que le cours de la Révolution désormais s'emballe, il ne maîtrise plus rien, il est lui-même emporté par les événements. Marie-Antoinette veut le faire arrêter, le roi l'exile sous un faux prétexte en Angleterre, Lafayette est devenu son ennemi. La Révolution, pendant ce temps, se radicalise. On lui prête encore main complot, on parle de la faction d'Orléans, mais celle-ci n'est plus son contrôle. D'ailleurs, d'autres utilisent son nom et ce qu'il représente. Rentré en France en 1790, honni de ce qui reste de l'ancien régime, il doit donner des gages à la Révolution. Il rejoint le club des Jacobins, puis se fait élire député de la Convention nationale en 1792 aux côtés des Montagnards de Robespierre. Son nom n'est plus qu'un enjeu entre partis. Lucide, il confiera à l'une de ses maîtresses « Je suis dans le torrent, je dois m'élever ou tomber avec lui ». Je ne suis plus le maître de mon nom, ni de ma personne. Son nom, ben justement, il a fallu s'en débarrasser quand les patronymes féodaux sont proscrits par la loi. Il devient Philippe Égalité. Ses enfants changent de nom avec lui, dont son fils aîné, le duc de Chartres, qui devient le général Égalité. Après avoir tôt rejoint les rangs des Jacobins, celui-ci se bat aux frontières avec les armées de la Révolution. En décembre 1792, Voici que sonne l'heure de vérité quand s'ouvre le procès de son cousin Louis XVI. Il tente en vain de se dérober, puis jure à ses proches qu'il ne votera pas la mort, qu'il s'abstiendra. Mais le 16 janvier 1793, est-ce à cause de la pression de la foule qu'il observe alors qu'il monte en tribune ? Quoi qu'il en soit, Philippe Égalité se prononce pour l'exécution du roi. Plus tard dans la journée, son plus jeune fils le rejoint au palais royal pour le trouver, dit-on, fondant en larmes, assis devant son bureau et les deux mains sur ses yeux. Quand il veut l'embrasser, son père l'aurait repoussé en déclarant « Non, je suis trop malheureux. Je ne conçois plus comment j'ai pu être entraîné à ce que j'ai fait. » Regret ou pas, le prince prouvait ainsi son engagement de révolutionnaire. Mais au plus fort de la terreur, tout devient incertain. Philippe Égalité, en réalité, n'est plus maître de son destin. En mars 1793, le général Dumouriez, qui commande l'armée du Nord, s'oppose à la Convention avant de passer à l'ennemi autrichien, embarquant avec lui le duc de Chartres, oui, le fils aîné de Philippe, devenu le général Égalité. À Paris, la réaction ne se fait pas attendre. Le 6 avril, la Convention décrète l'arrestation de tous les membres de la famille Bourbon. Le soir même, apprenant sa disgrâce, le prince s'exclame « Mais grand Dieu, est-ce possible ? Après les preuves de patriotisme que j'ai données, après tous les sacrifices que j'ai faits, me frapper d'un tel décret ? Quelle ingratitude ! Quelle horreur ! » Bientôt incarcéré à Marseille, le voici réduit, tour cruel du destin, à attendre son procès, exactement comme son cousin Louis XVI, 5 mois plus tôt. Et il le sait, la guillotine le guette. Le 7 mai 1793, Philippe Égalité comparaît devant le tribunal criminel des Bouches-du-Rhône. Le prince déchu nie toutes les accusations. « Non, citoyen, je n'ai jamais intrigué, je n'ai jamais eu de parti d'aucune espèce. J'ai toujours eu aversion d'être sur le trône. Je n'ai jamais fait répandre de l'argent, je n'ai chéri et désiré que la liberté. » Peine perdue. On l'accuse, c'est un prétexte, d'être un complice des Girondins. Transféré à Paris, il est jugé par le tribunal révolutionnaire et condamné à la peine capitale. Le verdict était écrit d'avance. « J'ai mérité la mort pour l'expiation de mes péchés », confie-t-il quelques heures avant son exécution. « J'ai contribué à la mort d'un innocent, son cousin, et voilà ma mort. Mais il était trop bon pour ne pas me pardonner. Dieu nous rejoindra tous deux avec Saint-Louis. » Le 6 novembre 1793, vers 17h, une charrette le mène jusqu'à la place de la Révolution où l'attend le bourreau Samson. Le convoi s'arrête un instant devant le palais royal, devenu le palais Égalité, propriété nationale désormais. Selon les témoins, Philippe Égalité, au pied de l'échafaud, ne manifeste aucune émotion ni aucune hésitation. Même Lafayette louera son courage face à la mort. Philippe Égalité, né Orléans, avait 46 ans. Ainsi s'achève un destin unique, celui d'un homme écartelé entre son appartenance à l'Ancien Régime et ses aspirations progressistes et libérales. Depuis plus de 2 siècles, on a tout dit sur son action et ses motivations. Il fut à la tête d'un complot franc-maçon, il était payé par l'Angleterre, il a préparé la Révolution étape par étape. Il reste difficile de démêler le vrai du faux. On ne saura sans doute jamais s'il rêvait vraiment de s'emparer du trône pour lui-même. Cité par Raphaël d'Argent, le comte de Cheverny jugea pour sa part dans ses mémoires que le duc ne fut en réalité, je le cite, « qu'un instrument qu'on a brisé dès qu'on n'en a plus eu besoin, qu'une misérable dupe qui a dépensé 17 millions pour se faire guillotiner. » Triste conclusion. Mais attendez, ce n'est pas tout à fait la fin de l'histoire. Philippe n'est certes pas parvenu lui-même à mettre les Orléans, la branche cadette des Bourbons, sur le trône, mais si ce n'est lui, ce sera son fils. Oui, vous vous souvenez, le duc de Chartres, devenu général Égalité, qui passa aux Autrichiens en 1793, provoquant ainsi la mort de son père, eh bien, ce fils aîné nouveau duc d'Orléans sera couronné roi des Français en 1830 sous le nom de Louis-Philippe Ier. Les Orléans montaient ainsi sur le trône. Louis-Philippe Ier sera le dernier roi de l'histoire de France. Philippe Égalité, le régicide, n'aurait sans doute pas osé en rêver.
Carrefour Banque et Assurance. Quand vous me dites
des projets ? Ah ben chez moi, c'est pas ça qui manque.
Eh bien, je vous réponds, dites oui à vos projets avec le prêt personnel Carrefour Banque et profitez de nombreuses solutions de financement à un taux très attractif. Et c'est jusqu'à lundi en agence Carrefour Banque ou sur carrefour-banque.fr.
Carrefour Banque et Assurance.
Offre de crédit réservée aux particuliers majeurs, délai légal de rétractation de 14 jours sous réserve d'acceptation par Carrefour Banque. Modalité complète sur carrefour-banque.fr.
15h, 16h.
Au cœur de l'histoire.
Stéphane Bern.
Bonjour Raphaël Dargent, merci d'être avec nous sur Europe 1.
Bonjour.
En 1830, la branche des Orléans accède au pouvoir. Louis-Philippe Ier, fils de Philippe Égalité, monte sur le trône. C'est le début de la monarchie de Juillet qui va durer 18 ans. Dans quelle mesure les opposants à Louis-Philippe vont-ils agiter le souvenir de son père, le régicide, pour remettre en question sa propre légitimité ?
En fait, la question de la légitimité pour Philippe Égalité, mais aussi, bien sûr, pour son fils Louis-Philippe, qui accède au pouvoir en 1830, elle est centrale. Elle est centrale. Et comment les opposants à Louis-Philippe insistent-ils sur cette illégitimité ? Eh bien, par exemple, en évoquant son ascendance, en évoquant les infidélités de sa mère. En effet, on a Louise-Henriette de Bourbon-Conti, qui est connue pour ses phrases que pour ses infidélités nombreuses. Et on raconte et on prétend que en réalité, le Louis-Philippe n'est pas le fils légitime de Louise-Henriette de Bourbon-Conti, mais qu'il serait le bâtard du comte de Melfort. Et si vous voulez, lui-même ne revient pas sur cette rumeur complètement infondée. Et puis l'autre élément essentiel pour évoquer cette illégitimité de Louis-Philippe, c'est d'évoquer en réalité le parcours tout à fait décrié de son père, en évoquant bien sûr son choix d'être de voter la mort du roi, mais aussi en évoquant son caractère d'ivrogne, son caractère de personnage déluré, de personnage finalement très peu recommandable. Et donc on brosse un tableau de véritable monstre. Et donc comme c'est le fils d'un monstre, lui-même ne peut être qu'un personnage peu recommandable.
Oui, mais comment Louis-Philippe lui-même compose-t-il avec le souvenir de son père ? Il a cherché durant son règne à le réhabiliter ?
Ah oui, alors certainement. Si vous voulez, ce qui est tout à fait étonnant, c'est alors que les différents écrits sous la Restauration, sous Louis XVIII ou sous Charles X, ont tendance à dresser le portrait d'un Philippe Égalité, évidemment, tout à fait monstrueux. À partir du moment où Louis-Philippe accède au pouvoir, vous avez au contraire quelques pamphlets, quelques ouvrages qui ont tendance à réévaluer ce personnage. Et Louis-Philippe lui-même, dans ses mémoires, écrits en 1802, qui traite de la période 1773-1793, a tendance à largement dresser un portrait flatteur de son propre père, et notamment concernant bien sûr son rôle dans la Révolution. Voilà.
Raphaël Dargent, vous publiez Philippe Égalité, le prince de la Révolution, aux éditions Talendier. Pourquoi plus que tout autre député ayant voté la mort du roi, rappelons qu'ils ont quand même été 387 à le faire, Philippe Égalité est-il le seul, à qui on donne le surnom du régicide ?
En fait, ce qui est terrible, c'est que les pires adversaires des Orléans, évidemment, ne sont pas des révolutionnaires, ne sont pas des héritiers de la Révolution, mais ce sont les héritiers de la branche aînée des Bourbons. Et en réalité, il n'y a pas un régicide, mais il y a bien 387 régicides. Parce que on mélange tout, on dit en effet la mort du roi a été votée à une voix
oui,
de majorité.
J'ai toujours appris ça. À
oui.
L'école, on nous disait... C'est la voix de Philippe Égalité qui a fait pencher la balance et qui a tué Louis XVI.
Oui, mais j'étais là il y a quelques jours à un salon du livre et j'avais face à moi des passionnés véritablement de cette période et qui me rappelaient à nouveau le régicide. Mais en fait, non, on confond les choses. La majorité qui vote la mort du roi et de 387. En réalité, il y a 361 votants qui votent une mort immédiate. Et puis à cela s'ajoutent 26 autres votants qui votent une mort différée. Et en réalité, la majorité est de bien de 360. Et donc, il n'y a pas simplement 361 votants pour la mort, mais 61 plus 26, c'est-à-dire 387. Et on mélange tout, en fait, puisqu'on exclut du décompte tous les votants pour une mort différée.
Issu de la branche cadette des Bourbons, celle des Orléans, Philippe Égalité est donc le cousin du roi Louis XVI. Si on remonte un peu le temps, avant que la Révolution n'éclate, quelles sont les relations entre les deux hommes? Est-ce qu'ils se fréquentent? Est-ce qu'ils s'apprécient? Est-ce que le duc d'Orléans, comme premier prince du sang, est au lever du roi? Il est au conseil? Est-ce qu'il paraît à Versailles?
Alors, au conseil, non, mais si vous voulez, effectivement, il paraît à Versailles. Ils se fréquentent tout de même, ils sont cousins. Mais il est clair que il y a, de la part du roi Louis XVI, à la fois une forme de méfiance et de relative jalousie vis-à-vis du duc d'Orléans. Pourquoi ? Parce que le duc d'Orléans est un personnage... alors, entre les deux, est un personnage qui a relativement de succès, qui est très populaire. Entre les deux, il y a une proximité, je dirais même de caractère. Les deux personnages, les deux cousins, sont relativement irrésolus. Il y a une forme d'indécision chez les deux. Et puis, Louis XVI n'oublie pas que dans ses jeunes années, son cousin a beaucoup fréquenté son épouse, Marie-Antoinette, qu'avec le comte d'Artois, ils ont participé à tout un ensemble de bals, parfois sans la présence de Louis XVI. On a même raconté tout un tas de rumeurs peu amènes pour Marie-Antoinette concernant son attitude vis-à-vis du duc de Chartres, d'abord, avant d'être duc d'Orléans. Et puis, il y a une autre différence qui a tendance à porter Louis XVI à la méfiance vis-à-vis du duc d'Orléans, c'est que contrairement à une idée admise par beaucoup et répétée, Louis XVI est comme son aïeul Louis XV, très opposé aux revendications, à la velléité ou à la volonté des parlements de se mêler de politique. Et Louis XV vraiment... comme Louis XV, s'oppose à son cousin sur ce plan institutionnel. Et les deux hommes s'opposent, puisque en 1771, au moment où le chancelier Maupeou essaye de mater les parlements, au moment de l'Assemblée des Notables de 1787, vous avez une opposition verbale très rude entre le duc d'Orléans et son cousin, sur cette question des parlements. Donc, il y a à la fois une méfiance... d'ordre privé, si vous voulez, et puis surtout une méfiance politique.
Oui, parce qu'en 1789, le duc d'Orléans prend le parti de la Révolution. En fait, il est guidé par son opposition à la monarchie absolue. Lui est très féru de la monarchie britannique, avec libéral, parlementaire, démocratique, pratiquement.
Exactement. Et en fait... vraiment, les deux hommes sont dans la continuité, dans la tradition de ce qu'ont été leurs familles respectives, branche aînée et branche cadette. Le duc d'Orléans ne fait que répéter les positions de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père, le régent. Louis XV va affirmer au duc d'Orléans, c'est la faute de votre arrière-grand-père si les parlements ont repris une certaine vigueur. Et en effet, les Orléans sont de tradition très ouverts au modèle anglais, à la liberté en général. Il y a ce goût de la liberté, d'ailleurs ce goût de la liberté à la fois sur le plan institutionnel, mais aussi parfois sur le plan privé. Ah oui, il y a quand même... Alors, tous les Orléans n'ont pas été comme ça. Le grand-père du duc d'Orléans était au contraire plutôt très mystique et peut porter sur, j'allais dire, le libertinage. Mais par contre, le Philippe Égalité est vraiment dans la continuité de son arrière-grand-père.
Oui, du régent.
Du régent, on va parler des petits soupers, etc.
Des parties fines et
exactement,
compagnie.
Exactement.
Mais alors, ce surnom de Philippe Égalité, c'est quand les patronymes féodaux sont proscrits par la loi. Il a choisi de s'appeler Philippe Égalité. Vous dites dans le livre qu'on lui a imposé.
Oui, on lui a... Alors, oui et non, je dirais. D'abord, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix, puisque cette décision s'imposait à tous je dirais, toute la noblesse, les patronymes féodaux devaient disparaître. Donc, de ce point de vue, il n'avait pas le choix. Et puis, il a tout de même choisi, contraint et forcé, entre plusieurs possibilités. Alors, il y avait des propositions qui étaient assez farfelues. On lui a proposé Publicola, on lui a proposé Bonaventure Libre, et puis finalement, il a opté quand même pour Philippe Égalité. Son fils raconte dans ses mémoires, donc son fils, le futur roi Louis-Philippe, que son père trouvait ce patronyme, enfin Philippe Égalité, absolument ridicule. Mais effectivement, il n'avait pas vraiment le choix.
Raphaël d'Argent, pour avoir voté la mort de son cousin, le roi Louis XVI, Philippe Égalité est devenu le régicide dans la mémoire collective. Est-ce que vous avez compris, vous, pourquoi il a voté la mort du roi? Parce que même Robespierre aurait admis et compris qu'il s'abstienne. Et on raconte qu'il y a eu un murmure de protestation, enfin de stupeur en tout cas, quand il est monté à la tribune pour justifier qu'il vote la mort de son cousin.
Ah oui, tout à fait. Il y a eu des exclamations au moment de ce vote. En fait, il a beaucoup hésité. Il avait promis à son fils et à l'anglaise Grace Elliott, qui d'ailleurs le raconte dans ses mémoires, une de ses anciennes maîtresse, si je puis dire, qu'il ne voterait pas cette mort. Et puis le matin du vote, le 16 janvier, deux émissaires, je dirais, deux députés se sont rendus en son domicile pour lui expliquer que tout de même, il serait observé. Donc il va changer d'avis, alors pour plusieurs raisons. On pourrait dire par peur, alors pas par peur pour lui-même, parce que c'est un personnage qui a montré dans son parcours un certain courage physique, mais par peur aussi pour ses enfants, pour ses fils et pour sa fille, d'une part. Ensuite, deuxième raison, il y a ce que vous avez dit dans le récit, qui est le torrent révolutionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, la révolution, a dit Joseph de Maistre, elle va toute seule. Elle va toute seule. Et Talleyrand reprendra cette image du torrent. En fait, la révolution, elle entraîne les individus tous. Hein, on pourrait même dire de Robespierre aux autres.
Ils sont emportés. En fait.
Ils sont emportés, ils sont roulés dans son lit comme des cailloux. Et le pauvre Orléans Égalité est de cela. Et puis enfin, il y a une dernière raison. Il n'est pas obligé de voter la mort du roi et il n'est pas obligé de se justifier. Et ce qui est étonnant, vous l'avez cité dans le récit, il se justifie et il parle de souveraineté. Et en effet, on le sait aujourd'hui, en effet, le roi et la reine ont écrit, ont transmis, ont communiqué avec les armées étrangères, avec l'émigration. Et en fait, le duc, pour se justifier, et ça entre un peu dans ses idées politiques tout de même, la révolution est terriblement logique et implacable, c'est quelque chose de mécanique. Et il dit, voilà, atteinte à la souveraineté, je vote la mort.
Vous écrivez que l'opportunisme de Philippe Égalité était au service de la même fin, ménager l'avenir et ne pas fermer la voie vers le trône pour la branche cadette. Ça, c'était son ambition première. Au fond, il aurait voulu jouer un rôle de premier plan. Il était le roi de Paris, il aurait aimé être roi à Versailles.
Oui, alors, il faut vraiment tuer cette idée fausse. Philippe Égalité n'était pas un personnage ambitieux. Il n'avait pas cette ambition-là. Il ne voulait pas régner. Il y a un moment, Orléans, et il ne saisit aucune des opportunités. Au contraire, il refuse de présider l'Assemblée. Lorsqu'arrivent les événements de 91, la fuite à Varennes, il y a encore tout ce courant qui le pousse, parce que ses partisans sont nombreux, vers la régence. Il s'exprime publiquement, et même par écrit, pour renoncer à cette régence. Il revient là-dessus plusieurs fois. Et d'ailleurs, ça déçoit beaucoup ses partisans. Mirabeau a une formule terrible à son sujet. Il dira « c'est un Jean foutre qui ne mérite pas le mal qu'on s'est donné pour lui ». Et en fait, il n'a pas cette ambition pour lui. Par contre, il sait qu'en cas de défaillance de la branche aînée, c'est aux Orléans que reviendra le trône. Et ça, il ne veut pas l'oublier. Il veut ménager l'avenir de ce point de vue, comme l'ont fait son père et son grand-père, ce qu'on ignore souvent, et qui sont montés au créneau au moment où certains envisageaient plutôt de regarder du côté de la branche espagnole des Bourbons. Et là, il en était hors de question pour les Orléans. Ce débat continue à être, de manière peut-être parfois un peu anachronique, mais d'actualité, ce qui est assez frappant.
On a accusé Philippe Égalité d'avoir fomenté bien des complots jusqu'à le présenter comme le grand ordinateur de la Révolution. Au fond, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir trahi sa caste.
En fait, c'est très étrange, parce qu'il y a bien eu une faction d'Orléans. Moi, j'ai la conviction, effectivement, il y avait énormément de partisans. Et je pense qu'en effet, on le sait, l'argent du duc a servi à financer des événements. Est-ce que le duc lui-même en était conscient et informé? Ça, c'est une autre question. Moi, j'ai tendance à penser, et c'est parce que pour avoir beaucoup travaillé sur le personnage, que s'il y a eu une faction orléaniste, le duc n'en faisait pas partie, en fait.
Lui-même a été l'instrument de ses propres partisans.
Oui, certainement. Et d'ailleurs, finalement, tout ça ne l'a pas servi. Ça s'est très mal terminé pour lui.
Oui, Philippe Égalité est mort, je le racontais, guillotiné le 6 novembre 1793, quelques mois après son cousin Louis XVI. Que deviennent alors les Orléans, leurs biens, par exemple? Le palais royal devient palais national.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour les Orléans, si on prend l'exemple de Louis-Philippe, c'est l'exil. Hein. Louis-Philippe traverse en quelque sorte l'Europe et le monde, puisqu'il passe d'abord en Suisse, puis ensuite en Scandinavie, puis ensuite aux États-Unis, à Cuba même, ensuite aux en Angleterre. Et donc l'exil pour les Orléans, et puis quant au bien, au palais royal, devenu palais égalité d'ailleurs entre-temps, il rentre dans le domaine de l'État. Les meubles, le mobilier est vendu, le palais est loué, avant d'être restitué en 1814 à Louis-Philippe.
Par Louis XVIII, par le frère cadet de Louis XVI. Et justement, les rapports changent un peu. Alors, pas forcément avec Louis XVIII qui dit à propos de Louis-Philippe, je ne le vois pas avancer et pourtant il chemine.
Exactement,
hein, cette phrase.
Tout à fait. Je m'aperçois qu'il chemine.
Ouais, je m'aperçois qu'il chemine. Mais en revanche, Charles X lui donne du Altesse Royale et lui ouvre les deux battants.
Exactement.
Donc les choses les deux branches se réconcilient.
Exactement. Et alors, il subsiste, vous avez tout à fait raison, une méfiance de Louis XVIII à l'égard de son cousin. Ça, c'est frappant. Et il y a mille petits... Alors, Louis XVIII est très attaché à l'étiquette, au protocole. C'est vraiment le côté très... pour le coup, autant il fait un pas vers le libéralisme avec la charte en 1814, autant sur le protocole, l'étiquette, il est vraiment... il tient absolument. Et il y a mille petites vexations à l'encontre du duc d'Orléans. Et Charles X, lorsqu'il arrive au pouvoir en 1824, lui est beaucoup plus ouvert vis-à-vis du duc, tout simplement parce qu'ils ont partagé dans leur jeunesse. Et au contraire, lui, vous l'avez dit, lui donne de l'altesse royale ou de l'altesse sérénissime. Et puis surtout, il lui dit... la branche cadette peut potentiellement régner. C'est une possibilité qu'il faut envisager. Et on le sait, le duc de Berry sera assassiné en 1820. Le comte de Chambord, qui naît en 1820...
Qui n'est qu'un enfant.
Quant au duc d'Angoulême, il n'a pas lui de descendance. Donc, il lui dit clairement, c'est une possibilité. Donc, on est vraiment dans un... Et puis en plus, Louis-Philippe quand même mener une entreprise de rapprochement. Il ne faut pas oublier qu'il a épousé Marie-Amélie de Bourbon-Sicile, la nièce de Marie-Antoinette, la fille de Marie-Caroline. Donc, il rentre en quelque sorte dans le giron pleinement familial. Quoi.
Un dernier mot, Raphaël Dargent. Qu'en est-il du souvenir aujourd'hui de Philippe Égalité? Cet homme est toujours au purgatoire. Il est, je dirais même presque en enfer. En tout cas, sa réputation est...
Ah oui. Ah oui, d'abord, premièrement, il faut le dire, il est, parmi un certain nombre de personnages de cette époque, assez oublié. D'ailleurs, Philippe Égalité, les gens s'arrêtent devant le titre et se disent « mais qui est cet homme ?» Et puis la deuxième version, la deuxième catégorie d'individus, c'est le régicide. Alors là, vraiment, c'est... on retient qu'un élément, évidemment, très important, mais qui est factuellement à la fois très exagéré, réducteur et faux, en fait.
Mais c'est vrai qu'on aurait compris qu'il ne vota pas la mort de son...
Oui, tout à fait. Et puis il va vraiment le regretter, vous l'avez dit.
Il va
pleurer, il va confier à son confesseur, l'abbé Lautringer, avant d'être lui-même exécuté, que ça reste une blessure pour lui. Il n'était pas obligé aussi de se justifier, mais il a voulu habiller, en quelque sorte, cette décision... d'un argument institutionnel supérieur et d'un argument politique.
Alors pourquoi vous êtes attaqué à la biographie d'un homme oublié ou détesté, franchement?
Parce que je dois être inconscient, certainement. Non, mais parce
qu'est-ce qui vous plaît chez lui?
Alors, je vais être tout à fait franc. Ce qui me gêne chez lui, c'est un certain manque de caractère. Il recule à chaque fois. Il recule à chaque fois qu'il peut peut-être saisir une opportunité. Mais je n'aime pas les jugements catégoriques et péremptoires. Et finalement, ce monstre n'en était pas un. C'était un homme comme d'autres. Et il méritait, en tous les cas, non pas d'être réhabilité, parce que ce n'est pas le but de mon ouvrage, mais il méritait d'être reconsidéré et surtout d'être replacé dans ce... C'est ce que j'ai voulu montrer. Dans ce vieux débat, de cet ancien débat, entre cadet et aîné. Et vraiment, on ne peut comprendre Philippe Égalité, comme d'ailleurs on ne peut comprendre Louis-Philippe, ou même le régent, son alliel, qu'en considérant cette opposition dynastique et naturelle, presque fatale, entre cadet et aîné des Bourbons.
Merci beaucoup Raphaël Dargent de nous avoir accompagnés cet après-midi au cœur de l'histoire du duc d'Orléans, Philippe Égalité, le prince révolutionnaire. Je rappelle que votre livre, Philippe Égalité, le prince de la Révolution, est disponible aux éditions Talendier. Le récit d'aujourd'hui a été écrit par Jean-Pierre Vrignaud et à la réalisation Loïc Vimard. Journaliste Armel Tiberge. Rédaction en chef Benjamin Delsol. Programmation de l'invité Morgane Vianney. Et pour plonger à nouveau au cœur de l'histoire, rendez-vous avec Virginie Giraud tous les jours en podcast sur votre appli préférée. Et je vous retrouve évidemment du lundi au vendredi à 15h sur l'antenne d'Europe 1.